Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70. Nathalie Amar.
5 août 1960, 5 août 2020, 60 ans d'indépendance aujourd'hui pour le Burkina Faso. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission spéciale consacrée à cet anniversaire avec nos invités. Basile Aïtaré-Guissou, sociologue, plusieurs fois ministre sous la présidence de Thomas Sankara. Et Seydou Ouédraogo qui préside l'Institut d'études économiques Free Afrique. Et avec vous évidemment, chers auditeurs qui nous appelez pour nous faire part de votre bilan, de vos souhaits pour le Burkina dans les décennies à venir. Avant de prendre en ligne Mouamadou, Seydou Ouédraogo, vous vouliez réagir sur ce que l'on évoquait juste avant le journal, hein, l'effort conduit en faveur de l'alphabétisation, de l'accès à l'école sous la présidence de Thomas Sankara.
Oui, tout à fait. C'était juste pour y indiquer trois petites choses. La première, c'est qu'on sait dire que quand Sankara arrivait au pouvoir, en gros, moins d'un enfant burkinabé sur cinq allait à l'école. Et 4 ans après sa présidence, en gros, un enfant sur trois avait la possibilité donc d'aller à l'école, aller à l'école désormais.
Voilà,
ça montre que si ce progrès avait été continué, on aurait atteint depuis très longtemps l'éducation universelle dans notre pays. Et juste une dernière chose sur ce point, c'est de dire que sur la qualité, il y a des reproches qui sont faites à la période Sankara, parce qu'il y a des éléments de qualité de l'éducation qui ont commencé à décliner sous Sankara, mais aussi toujours sur la qualité, il y a des éléments qui ont été renforcés, notamment l'éducation à l'environnement, qui a été instituée à l'école dès le bas âge. Moi, j'ai appris les trois luttes pour sauvegarder l'environnement à l'école primaire sous Sankara.
Mouamadou, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous vos invités, bonjour RFI.
Vous êtes à Ouagadougou et vous vouliez vous évoquer la présidence de Blaise Compaoré, 27 ans de présidence hein, jusqu'au soulèvement de l'automne 2014. Qu'est-ce que vous en retenez, Mouamadou ?
J'en retiens que le président Compaoré et son régime n'ont véritablement pas pu se réconcilier avec le Burkina après octobre 1987. Il faut dire que ce régime-là, ce que j'ai retenu, c'est un régime fort, avec une armée dans l'armée qu'on a vu par après, le RSP, et les libertés individuelles et collectives n'étaient pas la chose la mieux partagée par ce régime-là. Et donc, je retiens que le président Compaoré et son régime n'ont pas pu se départir de la violence avec laquelle ils sont venus au pouvoir.
Le RSP, donc le régiment de la sécurité présidentielle, hein, la liberté d'expression muselée, ce qui conduit effectivement à ce soulèvement de 2014. Basile Aïtaré-Guissou, quel bilan dressez-vous, vous, de ces 27 années de présidence de Blaise Compaoré ?
Écoutez, moi, mon parti politique a pris part à la révolution du 1983 et je fais partie des membres dirigeants du Conseil national de la Révolution et je dois dire que ce n'est pas une intervention extérieure qui a changé le régime du Burkina Faso le 15 octobre 1987. C'est une implosion interne. Donc, ces deux fractions qui avaient des visions opposées qui se sont affrontées. Et bon, c'est la faction Blaise Compaoré l'emporter avec sa vision néolibérale et qui a embrassé le FMI, la Banque mondiale avec passion. Et le droit à l'enrichissement individuel s'est vulgarisé, l'argent est devenu la valeur suprême. En quelques années, des fortunes se sont érigées, et bien sûr, comme ça se passe n'importe où ailleurs.
Ce sont des années d'un pouvoir fort, on l'a compris hein, avec Mouamadou. Ce sont aussi des années
relatif, hein, un pouvoir militaire mais pas fort. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas ça un état fort.
De pouvoir dur, alors, peut-être, que l'adjectif vous conviendrait davantage.
Répressif. Écoutez, moi j'ai fait la prison, je sais de quoi je parle, hein.
Vous avez fait de la prison en quelle année et pour quel motif, Basile Aïtaré-Guissou ?
Après le 15 octobre 87.
Pour quel motif, Basile Aïtaré-Guissou ?
De prison, hein. Allô ?
Sur quel motif, Basile Aïtaré-Guissou, puisque vous...
Mais aucun motif, je n'ai jamais été interrogé. J'ai été enfermé à la gendarmerie par Djibril Bassolé et Jean-Pierre Palme, c'est les deux.
Un pouvoir répressif, donc. Un pouvoir répressif, comme, donc
J'ai été victime de l'arbitraire et de la répression.
Voilà. Seydou Edraogo, pouvoir répressif, donc nous dit Basile Laetare Guissou, qui nous dit aussi que la présidence de Blaise Compaoré s'est en quelque sorte vendue au Fonds monétaire international et au libéralisme. C'est une réalité, ça? Seydou Edraogo?
Oui, vous m'entendez?
Oui, je vous entends. On vous écoute.
Oui, je veux juste indiquer que le président Compaoré n'a pas gouverné seul, il avait aussi des camarades, même si certains sont partis vers la fin de son pouvoir. Effectivement, le virage libéral opté en 1991 est un vrai changement de l'orientation des politiques économiques par rapport au président Sankara. À savoir donc que désormais le pays s'est ouvert aux privatisations, aux politiques libérales et comme il a indiqué le professeur Guissou, cela a occasionné des privatisations importantes et donc de nouveaux riches qui sont arrivés avec de l'affairisme à l'occasion de ces privatisations. Cela explique aussi la montée de la corruption depuis ce moment-là. Mmh. Mais il faut reconnaître que quand on regarde les taux de croissance sous le président Compaoré étaient des taux de croissance relativement bons. Et ces taux de croissance ont en particulier été renforcés avec l'essor minier, c'est-à-dire le boom du secteur de l'or depuis 2008. Mais c'est effectivement quand on analyse dans le contenu la croissance qu'on peut voir des insuffisances.
Abel, bonjour.
Oui, bonjour Nathalie.
Vous êtes, à Bangui, Abel, et on peut dire vraiment que vous êtes un enfant de la génération Compaoré, puisque vous aviez 26 ans en 2014 et vous avez participé au soulèvement cette année-là, qui a conduit à la chute du régime.
Oui, c'est exactement cela, parce que le principe même de l'alternance dans sa composition était violé. Et face, bien sûr, à la volonté, bien sûr, de ce régime-là de modifier la loi fondamentale du Burkina, toute la population du Burkina dans son ensemble, les syndicats, les partis politiques, un certain nombre de composants se sont mis main dans la main pour pouvoir dire non à cette situation. Et nous l'avons vraiment vécu avec beaucoup de satisfaction.
Alors vous faites effectivement référence à cet article 37 qui aurait permis à Blaise Compaoré de faire un nouveau mandat. Basile Laetare Guissou, ça a été vraiment le déclencheur, cette polémique sur l'article 37?
Écoutez, moi j'ai étudié la dialectique, je sais que pour qu'une révolution se produise, il faut que ceux d'en haut ne puissent pas gouverner comme avant et que ceux d'en bas refusent d'être gouvernés comme avant. C'est tout. C'est ce qui s'est passé.
Mmh. Donc ça n'était...
Allô ?
Oui, donc
voilà, et les gens...
Cette révolution...
C'est pas l'article 37 forcément, mais c'est la patrimonialisation du pouvoir et l'aiguisement des inégalités. Les riches devenaient toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Voilà. Mmh. Et comme le disait Sankara, c'est qui... Il y en a qui mangent, il y en a qui regardent, et c'est ça qui entraîne les révolutions.
Mmh, mmh. Et c'est effectivement cette volonté aussi quand même de briguer un cinquième mandat consécutif qui a fait aussi ce soulèvement de 2014. Seydou Edraogo, vous évoquiez tout à l'heure le développement, le modèle de développement qui change depuis la fin de la présidence de Blaise Compaoré jusqu'à aujourd'hui en raison de l'essor du secteur des mines. C'est aujourd'hui là que se trouve pour vous le potentiel pour l'économie burkinabé?
Oui, c'est l'un des secteurs avec un énorme potentiel pour le pays. Je veux juste indiquer que cet essor minier en réalité a commencé depuis 2008 à la faveur des cours très élevés de l'or qui se maintiennent à des moyennes très bonnes. Et les prospectives nous indiquent que le cours de l'or va être toujours élevé, on pense, dans les années à venir, à raison aussi de la pandémie. Et en conséquence, c'est un secteur qui engendre beaucoup de profits, et c'est un secteur qui a une grande capacité à générer des recettes. Mais par contre, sa capacité à redistribuer est faible, et c'est pour cela que les politiques de redistribution doivent être bâties à partir des ressources tirées de ce secteur.
Parce que c'est un secteur qui n'est pas aux mains d'entreprises burkinabées, ou en tout cas pas entièrement.
Oui, c'est l'un des défis, c'est que c'est un secteur, les 15 mines industrielles dans le pays sont toutes des mines étrangères, et même la fourniture locale intègre peu les secteurs privés burkinabés. Mais la bonne nouvelle, c'est que à la faveur de l'insurrection de 2014, la loi minière a été changée en 2015 pendant la transition, mmh. et elle institue un fonds de développement local qui prélève 1% du chiffre d'affaires de chaque société d'exploitation industrielle des mines et qui les redistribue en partie aux communes riveraines. Qui fait donc qu'à partir de cette année où ces communes ont commencé à en être bénéficiaires, vous avez des communes qui ont reçu plusieurs centaines de millions de francs CFA cette année et qui vont continuer à les recevoir dans les années à venir.
Donc la redistribution, elle est réelle, elle n'est pas seulement sur le papier.
Elle vient de commencer, il y a des défis importants, mais le fonds de développement minier est un puissant outil de redistribution. Et il faut qu'on se batte pour, d'une part, qu'il soit abondé au maximum, je parle de la société civile, et deuxièmement, que la gestion de ces fonds, en particulier par les autorités locales, soit une gestion en faveur des priorités d'investissement et non corrompue.
Alors, puisqu'on est au chapitre de l'économie, on va donner la parole à Gilles, qui est en ligne de Ouagadougou. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour Nathalie.
Alors, pour vous, 60 ans après, c'est surtout l'indépendance économique qui manque au Burkina Faso.
Allô?
Allô Gilles, est-ce que vous m'entendez?
Oui, allô Nathalie?
Oui, je disais que pour vous, ce qui manque au Burkina Faso 60 ans après l'indépendance, c'est l'indépendance économique.
Oui, c'est ça, l'indépendance économique. Parce que il n'y a pas d'indépendance politique sans une véritable indépendance économique. Parce que vous voyez, si vous avez vu avec l'indépendance, la France a été mal donnée les dîmes indépendantes machinées en contrepartie avec ses accords. C'est un secret.
Alors, Gilles, la ligne téléphonique, là, je ne sais pas pour quelle raison se dégrade avec Ouagadougou. Vous disiez donc au standard tout à l'heure, on est encore lié à la France, notamment par rapport au franc CFA. On était censé passer à l'éco, mais on ne sait même pas où on en est. Seydou Ouédraogo, c'est un défi évidemment pour le Burkina, mais aussi pour tous les autres pays de la région. C'est déterminant pour vous si on parle du développement du Burkina dans les décennies à venir? Cette indépendance économique et financière.
Oui, mais avant, je veux indiquer quelque chose en réaction à ce que Gilles a dit, à savoir qu'on n'est pas indépendant au plan économique. Ce qu'il faut indiquer, c'est que le déploiement des instruments de politique économique n'a jamais permis, depuis l'assassinat de Sankara, de mettre en priorité le secteur privé local. C'est ce qu'on a dit sur l'économie minière. Il y a des capacités locales qui auraient pu être aidées dans le secteur privé pour aller dans le secteur minier de façon ambitieuse. Ça n'est pas fait. Donc c'est cela l'enjeu, faire en sorte que, comme partout dans le monde où le développement a été initialisé de façon vigoureuse par des politiques de protection intelligentes qui, bien sûr, dans le temps, on les lève pour permettre aux entreprises locales qui sont montées en puissance de pouvoir maintenant rayonner nationalement mais aussi peut-être internationalement. Ça, on ne l'a pas connu. Et c'est les politiques libérales de 91 ont mis un coup d'arrêt de ce point de vue aux initiatives de Sankara.
Et sur la question de l'émancipation par rapport au franc CFA?
Bien sûr, je ne vais pas éluder la question. Ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques poignées de secondes? En réalité, le franc CFA pose quelques problèmes, sinon des problèmes importants aux pays africains. Le plus important, c'est que le débat doit être afro-africain, c'est-à-dire que un arrangement monétaire, quel qu'il soit, va toujours comporter des avantages et des inconvénients. Si l'arrangement monétaire actuel ne nous convient pas, et moi je pense qu'on peut effectivement avoir mieux que cela, il est bon qu'on, dans un débat afro-africain, on puisse trouver un autre équilibre. Ce qui se passe avec le projet de l'ECO est une mauvaise chose, comme l'a dit un collègue juriste ici. En réalité, on a le sentiment que c'est un projet qui va plutôt trucider le projet de monnaie commune au niveau de la CEDEAO. Parce qu'il y a une sorte de marche francophone à côté de nos amis anglophones et des autres de la région de la CEDEAO, sans les consulter, comme a pu le dire le président de la première puissance économique africaine, mais aussi de la première puissance économique de la CEDEAO, le président du Nigeria. Mm-hmm. Donc, à ce point de vue, je pense qu'il faut arrêter d'avoir des fantasmes et des discours qui sont dans l'invective. Il faut construire des alternatives, et c'est des alternatives qu'il faut construire de façon courageuse. Parce qu'un des avantages du franc CFA aujourd'hui, c'est qu'il donne un pouvoir d'achat aux élites des villes. Et ces élites des villes profitent de ce franc CFA aujourd'hui, mais pas la majorité des campagnes. Donc il faudrait bien que si les élites des villes veulent changer cette monnaie, et moi je suis favorable à cela, pour avoir une monnaie favorable au développement, il faut qu'elles sachent qu'il y a un sacrifice à faire. Je ne suis pas convaincu que cela est toujours bien compris.
Un mot peut-être de Basile Laïtaré-Guissou sur cette question de l'indépendance monétaire 60 ans après.
Ben écoutez, là, j'ai écrit, j'ai dit, je répète que la langue c'est comme la monnaie, et la monnaie c'est comme la langue. Vous ne pouvez pas vous développer à travers la monnaie d'autrui. Hein. Il faut fabriquer votre monnaie. Il faut. Je suis d'accord avec mon frère Seydou Ouédraogo par rapport au fait que c'est un débat qui doit être franco et africano-africain.
Est-ce que pour vous le projet d'éco est bien engagé ou pas?
Non, mal engagé, parce que ce n'est pas un débat de lui ou moi, c'est un débat de la CEDEAO. Et ce n'est pas à Macron et à Alassane Ouattara de prendre position pour la CEDEAO.
Donc il faut que
ça soit un débat entre Africains pour une monnaie sous-régionale et africaine. Je suis un panafricaniste, je suis pour les États-Unis d'Afrique.
Et vous voulez donc
une
monnaie ouest-africaine négociée par les pays d'Afrique de l'Ouest. On va prendre un tout dernier auditeur en ligne, Issaka Awaga. Bonjour.
Oui, bonjour Nathalie, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes en cet anniversaire préoccupé, c'est peu de le dire, hein, par la question de l'insécurité. Vous dites que le Burkina a longtemps été épargné, mais qu'aujourd'hui, la menace terroriste est bien là.
Oui, la menace terroriste est alarmante actuellement. Et cela m'inquiète beaucoup.
Vous avez l'impression que...
Oui. Les écoles se ferment de jour en jour. Les déplacés se comptent à des milliers. Cela m'inquiète un peu.
C'est vrai que c'est, on va dire, en quelques années, hein, depuis 2015, les victimes se comptent par centaines. Il y a énormément de déplacés intérieurs. Seydou Ouédraogo, c'est aussi un des grands défis pour, évidemment, la prochaine présidence et le président qui sortira des urnes en 2020.
Absolument, y compris bien avant, parce que je ne crois pas qu'avant les élections, on doit mettre cette question sous boiseau. Il y a des urgences de sécurité, y compris le visage communautaire que tend à prendre aujourd'hui l'insécurité. En tout état de cause, je veux indiquer que ce terrorisme a plusieurs causes et que ça remonte déjà à la dislocation de la Libye avec la circulation des armes et des combattants jusque dans le Sahel. Donc c'est aussi une contagion régionale, sahélienne. Mais il y a des causes internes également. Et ces causes internes, c'est les inégalités territoriales très importantes qui ont été construites sur les 30 dernières années à travers des politiques d'infrastructure qui ont été largement centrées sur deux Ouagadougou et quelques villes. Mais l'intérieur du pays a été beaucoup délaissé. Si bien qu'il y a des populations jeunes de l'intérieur du pays qui sont aujourd'hui dans un sentiment et ressentiment d'injustice qui les met en difficulté vis-à-vis du recrutement terroriste. Et donc, le terrorisme a aujourd'hui un pied endogène qui nous inquiète. C'est un défi majeur pour le pays.
Basile Laïtaré-Guissou, que répondre à l'inquiétude d'Issaka qui s'exprime à Ouagadougou sur cette question d'insécurité et du terrorisme?
Bon, écoutez, je pense que c'est une préoccupation qui est tout à fait légitime. Mais que une façon d'analyser peut nous induire profondément en erreur, c'est de croire que ces bandes-là peuvent amener le pays à la disparition, parce que c'est un peu ça la panique. On a perdu le nord, on a perdu le sud, on a perdu l'est. Non, on n'a rien perdu du tout. Je pense que la menace est là et je crois que nous avons à l'interne les moyens de nous mobiliser pour affronter cette situation, parce que ce n'est pas une agression extérieure forcément. Il y a à l'interne des choses à corriger. Je pense que notre armée est capable de faire face, de défendre notre territoire.
Merci. Cette émission touche à sa fin. Merci à nos invités. Basile Laïtaréguissou, sociologue, ancien directeur du Centre national de la recherche scientifique et technique, ancien ministre sous la présidence de Thomas Sankara, et Seydou Ouédraogo, président de l'Institut d'études économiques Free Afrique. On va vous retrouver d'ailleurs, Seydou Ouédraogo, tout à l'heure dans le débat africain avec Alain Foka à partir de